Merci à vous, Christian Merlin, et à la semaine prochaine. Il a été l'un des acteurs les mieux exposés de l'art lyrique dans le dernier demi-siècle. Hugues Gall, ancien directeur du Grand Théâtre de Genève, mais aussi de l'Opéra de Paris, fut également dans son jeune temps l'un des principaux collaborateurs de Rolf Liebermann. Autant dire qu'il en a vu beaucoup et qu'il connaît le monde lyrique international comme sa poche. Aujourd'hui toujours très actif, mais un peu en marge de l'opéra, il est libre de tout nous raconter, ce qu'il fera pendant 4 dimanches matins tout au long de ce mois de juillet. Mémoire d'opéra, Hugues Gall, première, aujourd'hui, les années d'apprentissage. Franz Liszt, la paraphrase de concert sur un thème de Rigoletto de Verdi, c'était joué par Claudio Arrao. Bonjour Hugues Gall.
Bonjour Lionel Esparza.
C'est vous qui avez voulu qu'on commence, ou au moins qu'on écoute dans cette émission, Claudio Arrao. Pour quelle raison? C'est le Panthéon personnel, c'est ça, hein?
Oui, ben, la chance de ma vie, c'est d'avoir découvert Claudio Arrao comme un auditeur, un spectateur, et de l'avoir par la suite rencontré, connu, d'être devenu son ami et de l'avoir un peu suivi partout. J'étais une groupie de Claudio Arrao, voilà. Et je lui dois énormément d'avoir découvert, redécouvert Beethoven, Schumann et tout le reste. Et si j'ai souhaité entendre cette paraphrase qui est magnifique de Liszt, c'est que Arrao plus Rigoletto, c'est une partie de ma vie, parce que Rigoletto, c'est l'opéra par lequel j'ai découvert l'opéra.
Et c'était à quel moment, ça, d'ailleurs?
Oh, c'était il y a très très longtemps. C'était à Lausanne, la ville où j'habitais, mes parents y étaient installés, et tous les 15 jours, il y avait un nouvel opéra, on donnait ça pendant 2 représentations, et ma mère m'a emmené voir Rigoletto. À cette époque-là, c'était pour moi un choc extraordinaire d'entendre Michel Danse, qui était le baryton français de l'époque, chantait Courtisan, ville race damnée, ça m'a marqué.
Ouais. On va revenir là-dessus et sur Lausanne avec vous, Hugal. On va rappeler tout d'abord que vous avez été l'un des acteurs, l'un des témoins de l'évolution du monde lyrique depuis, la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, directeur du Grand Théâtre de Genève pendant 15 ans, entre 1980 et 1995, et puis dans la foulée pendant 9 ans de l'Opéra de Paris. Mais avant de venir à cela, on va parler de vous peut-être dans cette première émission. Tracer une partie de votre enfance, au moins. Rappelez que vous êtes né à Honfleur, 18 mars 1940. Je dis Honfleur parce qu'il se trouve que c'est la patrie également d'Éric Satie et d'Alphonse Allais. Est-ce que ça laisse des traces dans l'esprit d'un homme, dans son humour peut-être?
J'espère que ça m'en a laissé quelques-unes, d'autant plus que ces deux génies, l'un de l'humour et l'autre de l'humour musical, étaient des élèves de mon arrière-grand-père, qui était le principal du collège de Honfleur pendant toute la fin du 19e siècle, qui a laissé un grand souvenir dans la petite ville de Honfleur, puisqu'on a donné son nom à la place devant la mairie. La place A. Boudin, c'est la place Arthur Boudin, non pas Eugène Boudin. Voilà. Simplement pour l'anecdote, la maison où ma mère a accouché, en ce jour que vous rappeliez, qui a une certaine importance pour moi, avait été celle de la veuve au pic, c'est-à-dire de la mère de Baudelaire. Et on prétendait que Baudelaire y avait écrit une partie des Fleurs du Mal.
Ce qui marque une enfance.
Le père d'Alphonse Allais, qui était membre du conseil municipal de Honfleur, était arrivé un jour, Alphonse Allais raconte ça, en disant « Mais après la mort de Charles Baudelaire, on pourrait peut-être mettre sur la maison de la veuve au pic, la mère de Baudelaire, un buste de Baudelaire. » Le maire de Honfleur réplique « Et s'il fallait mettre tous les enfants de la veuve au pic sur sa maison
?» Je vais pas donner tous vos prénoms, Hugal. Il y en a un au milieu qu'on connaît pas toujours. Hugues Randolph.
Oui, c'est, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait la confidence. Mon père était allemand. Il n'était pas véritablement pour le régime qui s'était installé en France, en Allemagne en 1933. En revanche, un grand anglomane, anglophile et grand admirateur de Churchill, et pour marquer la différence, après le prénom de Hugues qui était assez courant dans la famille de ma mère, on m'a donné celui de Randolph qui était celui du père et du fils de Churchill. C'est un peu prétentieux, mais ça voulait dire quelque chose. Il se trouve que mon père est mort en 64, en novembre, et Churchill 2 mois plus tard. Je suis allé à Londres et j'ai voulu participer à ses obsèques, qui était un grand moment de la vie anglaise, bien évidemment, mais surtout, pour moi, un signe important.
Vos parents, qui étaient-ils, Hugal, votre père en particulier?
Mon père était un ingénieur allemand qui avait poursuivi ses études en Angleterre, s'était installé ensuite en France, où il est devenu homme d'affaires et industriel, et où il a vécu heureusement jusqu'au moment où tout ça s'est déglingué. En 1939, il avait rencontré maman à la fin des années 20, la fille d'un professeur d'université et l'arrière-petite-fille de ce principal du collège d'Honfleur. Ma mère était infirmière de son métier, comme beaucoup de jeunes femmes de cette époque-là. Ils ont vécu heureux jusqu'au moment où les affaires se sont un peu compliquées, vous l'imaginez, et où mon père, comme tous les Allemands résidant en France et peu désireux de rejoindre la mère patrie, a été concentré ou interné dans un camp, comme la plupart de ses concitoyens, aux alentours de Paris. Moi, j'étais en train de me profiler, et à ce moment-là, mon père a obtenu d'être interné dans un camp près de Honfleur, ce qui fait que lorsque je suis né le 18 mars à Honfleur, ma mère, quelques jours plus tard, m'a amené dans ce camp pour rencontrer mon géniteur.
Ah oui, oui. Voilà. La culture, la musique, c'était de quel côté de la famille?
Des deux, mon colonel. Les deux? Oui, ma mère était d'une famille où elle pratiquait la musique, sa mère chantait, mon arrière-grand-père. Enfin bref, la musique faisait partie de la vie et mon père avait une solide culture, un grand goût musical, comme beaucoup de gens de sa génération dans la Bavière, cette Bavière du début du XXe siècle, qui avait été tout de même celle de grands musiciens, que je ne parle pas de Wagner ni de Richard Strauss, mais l'opéra, la musique de chambre, tout ça faisait partie de notre vie.
Vous avez évoqué le nom de Michel Danse tout à l'heure, Hugal, bien le voici.
Reviendras-tu jamais, ne reviendras-tu jamais dans cet asile de paix où s'écoula ton enfance, où refugitif bonheur as-tu chassé de ton cœur, as-tu chassé de ton cœur le souvenir enchanteur. Pays de Provence, viens revoir le ciel d'azur. Là, ta mère te réclame dans son amour le plus pur. Tu trouveras pour ton âme le refuge le plus sûr. Tu trouveras.
De la Traviata de Giuseppe Verdi, chanté en français, bien sûr, comme on faisait à l'époque, on chantait dans la langue du cru, c'était Michel Danse qu'on entendait ici, l'une des voix avec lesquelles vous avez découvert l'opéra Hugal, ce que vous nous racontiez tout à l'heure. C'est juste une petite insiste sur Michel Danse, c'est magnifique ce qu'on vient d'entendre. Ça n'a pas vieilli en plus. Hein.
Magnifique, eh bien, il était une gloire, il avait des fans dans toutes les villes de France, il chantait à l'opéra, bien sûr. C'était un grand artiste et les années ont passé, je l'ai rencontré, je lui ai redit ce que je lui devais, et puis un jour j'ai été à Saint-Roch, comme on y va de temps en temps, pour son enterrement. Alain Vanzeau a chanté, c'était très émouvant.
On va revenir à votre enfance. Hugal, les années, le milieu des années 40, c'est-à-dire la guerre se termine. En 1947, on vous retrouve à Lausanne, vous avez suivi bien sûr, parce que vous avez à peine 7 ans, vos parents. Pourquoi sont-ils partis en Suisse?
Ma mère avait été blessée ici à Paris pendant un bombardement américain, c'était comme ça, et les médecins lui ont conseillé d'aller se faire examiner par un grand spécialiste à Zurich, donc c'était la fin de la guerre, les choses marchaient moins bien pour cette spécialité ici à Paris, et mes parents sont installés donc en Suisse, d'abord à Nyon, puis ensuite à Lausanne, et ensuite on est resté, et finalement je m'y suis bien trouvé.
Vous faites de la musique, qu'est-ce que vous apprenez, je sais pas, des instruments?
Écoutez, je fais de la musique, non. J'ai fait, comme tout le monde, si je puis dire, du piano et même du violon. Mes professeurs pensaient et me disaient que j'étais extrêmement doué. Je ne les ai pas cru. Un autre épisode de ma vie, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je voudrais savoir ce que signifie, ce que représente le fait de chanter. J'ai pris des leçons de chant avec un excellent chanteur français, c'était ici bien plus tard. Et alors il était là en disant, mais vous savez, M. Fischer-Dieskau est en danger, Hermann Prey aussi, vous êtes magnifique. Je ne l'ai pas cru et j'ai fait d'autres choses.
Voilà. Vous avez peut-être dû croire tous ces gens-là.
Oui, bah, je ne serais peut-être pas ici en train de vous parler, j'aurais été viré de tous les postes.
Vous avez quand même chanté beaucoup, enfin dans des chorales en tout cas à Lausanne.
Hein. C'est-à-dire qu'à Lausanne, dans ce collège qui n'était pas... qui était une école publique, il y avait une grande part réservée à la chorale. On apprenait de façon très professionnelle les grands chœurs de la Flûte Enchantée, d'Orphée, Eurydice, des Indes Galantes, enfin tout ça, pour préparer la cérémonie de fin de scolarité qui s'appelait les promotions. Alors on se promenait en cortège jusqu'à la cathédrale de Lausanne, qui est un fort bel édifice entièrement restauré par Viollet-le-Duc, avec une flèche, elle aussi. Et le fait d'avoir été élevé dans cette discipline du chant choral m'a appris beaucoup de choses et puis m'a amené à aimer profondément toutes ces grandes parties de chœur. Et puis le reste, évidemment, ce qu'il y avait entre deux, c'est-à-dire l'opéra. Mmh.
Lausanne était une ville moyenne, alors, on va dire les choses comme ça, mais ça n'empêche que la musicale était forte. Hein.
C'est une ville de... ça devait être environ 150 000 habitants, maintenant c'est un peu plus vaste, mais enfin... comme toutes ces villes dans des régions que sont la Suisse ou l'Allemagne, les villes moyennes sont extrêmement vivantes. Il y a la vie musicale est très intense, mais des concerts de musique de chambre partout, de musique évidemment religieuse dans une grande école d'orgue. Il y avait les concerts de l'orchestre suisse romande, puisque Ernest Ansermet, le créateur, le grand chef d'orchestre, donnait une fois par mois un concert d'abonnement de l'orchestre de la Suisse romande, d'abord ce qui était le cinéma Métropole, et ensuite les Lausannois ont construit une salle qui d'ailleurs fonctionne toujours à Beaulieu, et je dois énormément à ces concerts, auxquels ma mère m'avait abonné, mais auxquels mes camarades pouvaient assister s'ils le souhaitaient, puisque le collège avait la sagesse de prendre des abonnements et de les rétrocéder au prix coûtant, mais enfin on avait la possibilité de s'inscrire pour entendre tel ou tel concert, pas tous. Ma mère, qui était une femme tout à fait extraordinaire, mais toutes les mères ne le sont-elles pas, m'avait, avec ma sœur, absolument bloqué pour une soirée, dont je me souviendrai longtemps, qui était un concert dirigé par Furtwängler. J'avais 12 ans. Je me disais, c'est très bien, mais enfin, quand même, j'étais très fatigué. Nous rentrions d'une, ce qu'on appelait une course d'école. Nous étions allés crapahuter quelque part sur un glacier. Et en sortant du train, ma mère nous avait amené dans un taxi quelques costumes convenables et nous sommes précipités au concert de Furtwängler. Je pensais m'endormir. Je n'ai pas dormi une seule minute. Je vois encore cette grande silhouette, cette gestique et puis ces symphonies de Beethoven. Alors je suis très reconnaissant à la Providence, on parle comme ça parfois, à ma mère en tout cas, et à Furtwängler de m'avoir fait découvrir deux symphonies de Beethoven dans des conditions où peu de gens ont pu les apprécier.
Les dernières mesures d'Apollon Musagète d'Igor Stravinsky, c'était l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Ernest Ansermet.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Hugel, on a bien compris qu'à la fin des années 40, au début des années 50, les années où vous êtes à Lausanne, vous découvrez à la fois la musique symphonique, la musique d'opéra, le ballet aussi, si j'ai choisi ici Igor Stravinsky avec Ansermet, c'est qu'on sait qu'il y avait un rapport très fort entre cet homme et cette œuvre en particulier, mais aussi cette idée du ballet et de la danse, qui je crois est important pour vous.
Ben, la danse est devenue très importante pour moi. À Lausanne, à l'époque, il y avait des écoles de danse, ma sœur dansait, mais enfin, ça n'était pas de quoi me bouleverser. En revanche, par la suite... en arrivant à Paris, j'ai évidemment vu beaucoup de spectacles de danse, au Théâtre des Champs-Élysées, à l'Opéra, ça va sans dire. Et puis l'importance de la danse, du lien entre la danse et la musique, cette partition par exemple, qui me rappelle à chaque instant le génie de Balanchine, de Janine Stravinsky, l'extraordinaire prestation de Nureyev ou d'autres, dans ce final extraordinaire. Non, la danse pour moi est devenue essentielle, et puis d'ailleurs s'il n'avait pas été, ça aurait été très grave, parce que quand on est directeur de l'Opéra de Paris, la moitié de l'activité au moins de cette maison, de cette institution, doit être consacrée, les efforts du directeur à promouvoir la danse, à veiller à ce que les danseurs, le corps de ballet reste au niveau où il n'est jamais descendu. Voilà, à cet égard d'ailleurs, on a pu penser, moi le premier, que la Bastille était peut-être pas absolument indispensable, c'était ma conviction à la fin des années 70, quand on a lancé ce projet, quand le président Mitterrand l'a lancé. Je suis bien revenu sur cette idée idiote, et notamment parce que le ballet de l'Opéra, qui est une compagnie majeure, essentielle dans l'histoire de la France, l'histoire de la danse, était à l'étroit sur le plateau du Palais Garnier. Et lorsqu'il y avait des arbitrages à faire du temps de Liberman, j'étais son bras droit notamment pour toutes ces questions-là, c'était toujours en faveur d'une répétition supplémentaire d'Othello ou de Don Juan, et tout ça se faisait au détriment d'une représentation de Gisèle, du Lac des Cygnes, ou que sais-je, d'une soirée contemporaine. Et alors la compagnie, qui était très importante, non pas seulement du point de vue historique, mais du point de vue du nombre et de son désir de danser, était extrêmement malheureuse. Le problème, donc, était en grande partie résolu par l'existence de l'Opéra Bastille, qui donne un ballon d'air, un espace, du temps, de répétition et de production, qui fait que le ballet de l'Opéra, maintenant, sur les deux scènes, que ce soit le Palais Garnier ou la Bastille, peut s'exprimer, sans parler naturellement de ses tournées. Donc, vive la Bastille, notamment pour ça.
Vous a laissé à Lausanne il y a quelques minutes. Hugues, on vous retrouve à Paris à la fin de l'adolescence. Vous êtes en Cagne, au lycée La Canale. Enfin, c'est, je dis à Paris, c'est à côté de Sceaux. Hein. Que veut faire la famille à Paris?
Mon père avait toujours remarqué le parc admirable du lycée La Canale, puisqu'il avait des bureaux non loin. Et lorsque j'ai passé mon bac, il était question de me faire faire des études. Ma mère penchait évidemment, puisque c'était la tradition familiale, vers des études de lettres. Bon, j'avais fait du grec, j'avais fait du latin, comme on en faisait beaucoup à l'époque. Et mon père a décidé de me mettre à La Canale, parce que il pensait qu'après l'air pur des montagnes et du lac Léman, la pollution de Paris, qui n'était pas encore celle qu'elle est devenue, était moindre sous les frondaisons du parc de Sceaux. C'est pour ça que je suis arrivé là, et je ne m'en plains pas, j'ai passé une année d'hypocagne et de cagne tout à fait passionnante. J'étais avec des camarades brillantissimes qui ont tous réussi. Et moi, j'étais là à les regarder, plein d'admiration, non pas d'envie, ils étaient charmants avec moi. Et nous sommes restés amis pour beaucoup d'entre eux, en tout cas.
Ouais, vous dites du grec, du latin, des études très classiques comme on les concevait à l'époque, avec en plus une tonalité germanique pour vous.
C'est-à-dire que, oui, il se trouve que mon père était allemand, mais nous n'avons jamais parlé allemand à la maison. Et mon père a tenu à ce que j'aille régulièrement en Bavière pour voir à peu près d'où je venais. Et d'autre part, en Suisse, à part le français qui était évidemment la première langue dans le collège où j'étais à Lausanne, la langue allemande était essentielle. Donc j'ai appris l'allemand et je l'ai à peu près parlé convenablement. Il m'arrive de le parler encore. Et lorsque je me suis trouvé en Cagne à choisir une spécialité, j'ai abandonné le grec et je suis devenu germaniste, comme on dit. Et j'étais le seul élève d'un garçon tout à fait brillant. Il s'appelait Pierre Juquin, dont on a entendu parler parce qu'il était membre du comité central du Parti communiste. Ce qui ne gâtait rien, enfin, c'était amusant à cette époque-là. Il a réussi à me convaincre du génie de Goethe et de Schiller et de Hegel, mais pas de Marx. Voilà.
C'était comment d'ailleurs politiquement à la maison, dans la maison Galle, chez vos parents ?
Oh, tout était très ouvert, il n'y avait pas de... On était plutôt dans l'idée que l'Europe était essentielle. On était plutôt dans l'idée que le général de Gaulle avait raison et que Churchill aussi. On était plutôt dans l'idée qu'il fallait réparer tout ça. Et mon père avait beaucoup souffert de son passeport pendant la guerre. Il avait d'ailleurs renoncé à sa nationalité, puis il l'a reprise quand il a eu la conviction que dans la suite des événements, Adenauer et la République de Bonn étaient sur les bons rails. Il est mort avec son passeport allemand ici à Paris.
Qu'est-ce que vous vous destinez à faire à cette époque-là, Hugal, au moment où vous êtes au lycée La Canale, en Cagne ?
Je me destinais à rien du tout, j'étais d'une paresse insigne, je me laissais vivre, je voyais arriver le concours d'entrée à l'école normale supérieure avec terreur, parce que j'étais bien convaincu de ne pas en être capable, et d'autre part, je ne me voyais pas, parce que dans mon idée, être rue d'Ulm, ça débouchait évidemment sur l'agrégation, puis sur l'enseignement, et franchement, je ne me voyais pas là-dedans, mais j'avais aucune idée sûrement. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que les arts, la musique particulièrement, la littérature bien sûr, mais enfin, en dehors de ce qu'on nous enseignait, ce vers quoi on nous poussait, la musique était fondamentale pour moi. J'écoutais beaucoup de musique, j'allais dans les concerts les plus divers en sortant de cet internat, et le théâtre, puisque... C'était l'époque où Jean Villard, ou puis Jean-Louis Barrault, les extraordinaires saisons du théâtre qu'on n'appelait pas le théâtre de la ville, mais était le théâtre Sarah Bernard, avec toutes les compagnies du monde qui débarquaient à Paris, le Berliner Ensemble, Piccolo Théâtre, tout cela, ça m'a permis de découvrir, de connaître, d'apprécier un univers qui me guidait plutôt vers quelque chose qu'on appelle les arts, voilà, mais j'avais pas d'idée préconçue.
Thank you.
La berceuse de Gabriel Fauré, jouée par Christian Ferras au violon, à ses côtés Jean-Claude Ambrosini. Christian Ferras, que vous découvrez, enfin, que vous avez découvert quelques années avant celle qu'on est en train d'évoquer, Hugal, justement, quand vous étiez à Lausanne. Hein.
Oui, dans les concerts d'abonnement de l'Orchestre de Suisse Romande, Ansermet invitait tout ce qui était nouveau, et même les plus grands, mais Christian Ferras était régulièrement là. J'étais très fasciné par son jeu, sa sonorité, sa musicalité. En plus, je m'essayais au violon, alors j'étais absolument admiratif de ce garçon. Et puis, ce qui me touche beaucoup dans l'extrait que vous venez de passer, c'est qu'il est accompagné de Jean-Claude Ambrosini, qui est devenu un de mes meilleurs amis, et avec lequel, d'ailleurs, un jour, Jean-Claude me dit « Écoute, Christian doit jouer à Mâcon, une ville où il avait vécu, où il allait donner un récital pour remercier les Mâconnais de leur accueil. » Alors nous sommes partis en voiture et nous avons joué, enfin moi je tournais les pages, Jean-Claude jouait admirablement comme accompagnateur de Christian, et on a passé une après-midi entre Mozart, Beethoven, devant les Mâconnais. Ouais. C'était un grand artiste.
C'était un grand artiste, mais même les après-midi, le whisky n'était jamais absent, hein.
Bah, c'est-à-dire qu'il avait ce petit remontant, oui.
Bah, c'est ça, vous avez dit trois remontants. Bon, très bien, on va dire les choses comme ça. On vous a laissé tout à l'heure en cagne, Hugal. Est-ce que vous avez réussi le concours d'ailleurs?
Tiens. Non, bien sûr, c'est ma grande blessure.
C'est vrai?
Mais enfin.
Bah, vous avez réussi tellement de choses après, écoutez, franchement.
C'est bien vous qui le dites. Non. Non, je n'ai pas réussi. J'avais peut-être probablement pas non plus la niaque pour réussir ce passage. Je le regrette parce que c'était. C'est quand même admirable d'être ancien élève de l'école normale supérieure. Jamais eu ambition d'être ancien de l'ENA, et pour cause, je n'ai jamais essayé. Être ancien de l'ENA, c'est pas mal, mais bon, rue d'Ulm, c'est mieux.
Ça a du cachet quand même, hein.
Oui.
Alors du coup, vous intégrez l'Institut d'études politiques, et surtout que vous allez croiser pas mal de beau monde parmi vos professeurs, des gens qu'on retrouvera et que vous retrouverez aussi dans la suite de votre carrière.
Ben, j'en ai croisé beaucoup, à l'époque, le Sciences Po, comme on disait, était un institut important, mais enfin pas aussi grand qu'il l'est aujourd'hui. Il y avait là un certain nombre de maîtres, dont mon premier maître de conférence était Jean Maheu, qui par la suite a été longtemps ici dans cette maison.
À Radio France.
À Radio France. Il y avait Jacques Rigaud, qui a été par la suite le directeur de cabinet ô combien remarquable de Jacques Duhamel, à qui je dois en grande partie d'être ici. Un admirable germaniste, là pour le coup, Alfred Grosser, dans la conférence duquel j'étais, qui est probablement un des hommes les plus remarquables que j'ai rencontrés. Enfin bref, il y avait là un certain nombre de maîtres qui... Raymond Barre, que j'ai connu
ah oui.
Là, oui. Enfin, je l'ai connu, j'étais assis sur les bancs. Et son cours d'économie politique était admirable, et probablement trop admirable pour moi, parce que je dois dire que j'ai dodeliné de la tête assez souvent, comme il eut par la suite sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais c'était un homme remarquable. Et puis voilà, c'était Sciences Po de l'époque.
Ah ouais. Est-ce que vous connaissiez déjà Edgar Faure, qui était proche, je crois, de votre père?
Non, Edgar Faure était un brillant avocat. Il était avocat dans les affaires de mon père avant la guerre. Et quand mon père est mort ici, j'avais 24 ans, Edgar Faure, qui entre-temps avait fait la carrière politique que vous savez, député, puis président du Conseil, puis ministre des Finances, puis... m'a pris sous son aile et m'a aggloméré, si on peut dire, à son cabinet. Et je me suis retrouvé en 66 au cabinet du ministre de l'Agriculture, qu'il était, au moment où se négociait ce qu'on appelle la PAC. Moi, j'étais là comme une sorte de... sur un strapontin, mais passionné de regarder tout ça. On m'avait quand même confié un dossier pour faire sérieux. C'était celui de... la protection des animaux, et notamment l'application des décrets que M. Pisani avait pris, et qui n'étaient pas encore en action, si on peut dire, les décrets que Brigitte Bardot avait inspirés pour humaniser, si on peut dire, l'abattage des animaux. Donc ça m'a intéressé, peut-être aussi parce que j'aime bien les animaux, mais quand j'ai vu combien l'administration était lente à exécuter des textes qui avaient été promulgués ou qui avaient été publiés et combien elle traînait la patte, j'ai pris, avec l'autorité que je me croyais acquise, pris à un moment donné le directeur des services vétérinaires de la France, qui était pas rien, j'avais 26 ans, lui était un homme considérable, et je lui ai dit, monsieur le directeur, on va aller à la Villette pour voir comment on applique nos décrets. Évidemment, aller à la Villette, c'était l'époque où la Villette était évidemment l'abattoir que vous savez. Et on devait y être à 5 heures du matin. C'était pas confortable pour un haut fonctionnaire. Peut-être pas pour moi non plus. Mais enfin, j'y suis allé plusieurs mois de suite. Ma mémoire est bonne, c'était le mardi. Et alors j'ai vu fonctionner cette extraordinaire succession de box. Chaque boucher parisien avait son box. Il tuait sa bête ou ses deux bêtes. Et toujours comme on le faisait depuis des millénaires. Il ne comprenait pas qu'on l'obligeât à estourbir les bêtes en dépensant de l'argent, perdant du temps, etc., etc. Enfin bref, et à la fin, mon obstination, qui a servi au moins à quelque chose, a fait que le directeur du service vétérinaire, vous trouvez ça un peu fatigant, se disait, ce petit jeune va pas lâcher la truc. Donc finalement, je crois que pendant un bout de temps, en tout cas, ce système de pistolet à cartouche a été mis en vigueur, et je ne sais pas si ça fonctionne encore. En tout cas, voilà, j'ai fait ça au moins.
Ça, je m'attendais pas.
Ça a marqué l'agriculture.
Eh ben, je vois ça, mais ça, je m'attendais pas à ça de vous dans votre parcours, en tout cas, Hugues Gall. C'est drôle parce que vous passez, enfin, les abattoirs, c'est pas drôle, mais vous passez, en fait, quasiment directement des bancs de l'école, enfin, l'école améliorée, hein, avec de très très bons professeurs, bien évidemment, au cabinet ministériel, grâce à Edgar Faure, quasiment sans
oui,
transition.
C'était un choc chaud-froid intéressant qui m'a amené à regarder l'État d'en haut, alors qu'on me l'avait enseigné d'en bas. Et par la suite, cette expérience qui a duré, puisque Edgar très gentiment m'a emmené avec lui en 68 à rue de Grenelle à l'éducation nationale, ces quelques années de cabinet ministériel, surtout de vivre avec un homme politique de cette envergure et de cette humanité, parce que c'est un homme, m'a été au moins aussi utile que les quelques années par la suite auprès de Rolf Liebermann, où j'ai appris à devenir directeur d'opéra. Les deux se conjuguent assez bien, je crois, parce qu'on ne peut pas être directeur d'une institution aussi budgétivore, aussi exposée qu'un opéra, que ce soit à Genève, à Paris ou ailleurs dans le monde, sans avoir en permanence un souci conjugué, artistique bien sûr, et politique.
un extrait des préludes de Frédéric Chopin, joué par Alfred Cortot, l'un des musiciens que vous avez voulu voir présent dans cette émission également. Hugal, entendu lui aussi à Lausanne, décidément il s'est joué beaucoup de choses là-bas.
Mais Alfred Cortot vivait après la guerre en Suisse pour des tas de raisons, il était bien. Et chaque année, l'orchestre de chambre de Lausanne, qui était une formation sympathique, donnait un concert avec lui. J'ai entendu Chopin, Schumann, et par la suite, évidemment, j'avais pour Cortot et ses enregistrements beaucoup d'admiration. Et...
Malgré les blancs, comme on dit.
Alors, il y avait le blanc de Cortot. C'était... Cortot commençait ses concertos sans partition, et puis régulièrement, il avait un blanc, alors il apportait la partition et il continuait.
Ça faisait partie aussi du pittoresque Cortot.
C'était il y a très longtemps, il était déjà un monsieur très âgé, c'était pas régulier chez lui.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Premier ministère que vous visitez, donc, vous nous l'avez dit il y a quelques minutes, Hugal, c'est celui de l'agriculture. Le second, ça va être celui de l'éducation nationale. Donc, comme vous nous le disiez, Edgar Faure qui vous emmène à l'éducation nationale. En 1968, la date est importante pour le ministère dont il s'agit.
Oui, le mai 68 était passé par là. Général de Gaulle a demandé à Edgar Faure de venir calmer le jeu, ce qu'il a fait en faisant voter la loi d'orientation que d'aucuns lui reprochent, mais qui à l'époque avait été essentielle pour calmer l'université, comme on disait. Et donc j'ai été dans ce cabinet avec des gens très remarquables et j'y ai appris beaucoup et on m'a confié, il fallait bien que j'aie un dossier en dehors de celui qui concernait plus précisément les affaires politiques du ministre en Franche-Comté, je me suis occupé des enseignements artistiques dans le cadre de la réforme. Voilà.
Là, c'est important parce que, alors je ne sais pas si c'est sous Edgar Faure d'ailleurs, ou sous Edmond Michelet, c'est vous qui allez mettre en place, ce que moi j'ai très bien connu, hein, et je ne suis pas le seul, le bac avec option musique.
C'est-à-dire qu'on a, la rue de Grenelle à l'époque, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale avait pour partenaire la rue de Valois, c'est-à-dire le ministère d'État chargé des affaires culturelles, dont André Malraux était le ministre. Et comme partenaire sur un certain nombre de dossiers, mais celui qui était le plus efficace, c'était celui de le dossier de la musique, c'était Marcel Landowski, qui était chef de bureau chargé de la musique, rue Saint-Dominique, c'est-à-dire pas très loin. Et nous sommes très bien entendus, il avait des projets, il correspondait à l'idée que je me faisais et que j'avais probablement su vendre à mon ministre. Et donc parmi les dossiers importants, il y avait le bac à option musicale, il y avait les horaires aménagés, il y a toutes sortes de choses qui ont perduré.
Oui, que vous avez mis en place, pardon de le dire, parce qu'on ne le sait pas toujours.
Que j'ai mis en place parce que j'étais le conseiller technique du ministre chargé de ces choses-là. Mais enfin, ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu un accord parfait entre Marcel Landowski, qui est devenu un ami et qui a si compté tellement dans la musique française, et moi-même.
C'est une période, là on est à la toute fin des années 60, début des années 70, où on peut dire, c'est très différent avec aujourd'hui, que le politique a une assez haute idée de ce que c'est que l'art, la musique étant comprise évidemment dans le grand art, et qu'il s'agit de le passer très largement aux citoyens. Donc il y a une politique culturelle extraordinairement volontariste. Vous avez profité d'une certaine manière de ça aussi, au moins assisté à ça, Hugal.
Oui, c'était d'ailleurs presque une évidence. D'ailleurs, dans les cahiers de revendications des comités de mai 68 que je recevais, nous avons beaucoup discuté, il y a énormément de demandes qui allaient dans ce sens-là, d'augmenter la part de ce qu'on appelait les disciplines de la sensibilité, la musique, les arts, etc. Il y avait même l'école d'architecture, les beaux-arts demandaient à être attachés à l'éducation nationale, et ça n'allait pas contre les idées même d'Edgar Faure, qui est un homme de grande culture, et lui-même un assez bon musicien et pianiste. Voilà, du côté de Malraux, les choses étaient en train de bouger singulièrement, grâce à Marcel Landowski, comme on l'a vu. Donc c'était une époque porteuse pour ces idées-là et pour l'importance de l'enseignement des arts, et pas seulement de la théorie ou de l'histoire des arts, mais de la pratique des arts.
On va se mettre dans le bain musical de cette époque-là, si vous voulez bien. C'est un petit peu avant 1965, ça va nous permettre d'aller tout doucettement vers l'Opéra de Paris. Adieu, firent citer des Troyens d'Hector Berlioz en 1965. La voix de Régine Crespin, c'était avec l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, sous la direction de Georges Prêtre. Inutile de dire que vous l'avez croisé maintes fois, la Crespin, dans ces années-là. Enfin, peut-être pas en 65, mais dans les années
65,
qui suivent.
Hein, non, je l'ai entendu pour la première fois en scène dans une production de Tannhäuser de ces années-là, à l'Opéra, où elle était magnifique. Un costume extraordinaire d'Eléonore Fini, elle était superbe. Puis par la suite, je l'ai rencontré, connu, nous avons eu les rapports les plus affectueux, amicaux. Mais enfin, ce que vous se rappelle cet enregistrement, c'était une chanteuse unique qui a laissé d'ailleurs une trace absolument magnifique dans le ciel de l'opéra mondial. Parce qu'ils n'étaient pas si nombreux, les chanteurs français, qui avaient acquis une telle gloire.
1969, donc vous êtes nommé secrétaire général de la RTLN, comme on dit alors, la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux, c'est-à-dire l'Opéra Comique, Salle Favart d'un côté, et puis le Palais Garnier de l'autre. Comment s'est faite cette nomination-là? C'est depuis le ministère de la Culture?
Ça ne se pourrait plus aujourd'hui. J'étais au cabinet d'Edmond Michelet après avoir quitté l'éducation nationale, après le départ du général de Gaulle. Malraux quitte la rue de Valois. Edmond Michelet, qui était un homme remarquable, a été nommé dans cette fonction par Pompidou. Et puis, il fallait faire la réforme de l'opéra. Et j'étais là, avec un certain nombre d'autres, comme conseiller. Et à ce moment-là, le ministre me dit, écoutez, dans la réforme que nous envisageons, je peux m'imaginer que vous seriez secrétaire général aux côtés de René Niccoli, qui venait d'être nommé administrateur de ce qu'on appelait la RTLN, vous l'avez rappelé, et qui était l'homme des jeunesses musicales de France, connaissait bien le milieu musical. Et il y avait d'autre part Georges Prêtre, qui était nommé directeur de la musique, directeur musical de l'opéra, Roland Petit pour la danse, etc. Et moi, j'étais là-dedans. Sauf que ça n'a pas duré, pour des tas de raisons. Entre-temps, Jacques Duhamel était devenu ministre, qui était un homme tout à fait extraordinaire, d'une grande importance politique et d'une grande culture. Et c'est lui qui a eu l'idée, à laquelle je n'étais pas totalement étranger, de faire appel à Rolf Liebermann pour diriger le nouvel opéra.
Vous venez de parler, Hugal, de réforme. Il fallait réformer l'opéra. Vous nous disiez, il était un peu sclérosé à la fin donc de ces années 60, le réformer. Quels sont le type de réformes que vous avez voulu justement appliquer dans cette période?
C'est-à-dire qu'on avait le sentiment, je n'étais pas le seul, que, pour parler de façon triviale, le rapport qualité-prix n'était pas bon, que les soubresauts de l'opéra, qui se traduisaient déjà souvent par des grèves, mais aussi par une médiocrité, qui était plutôt le plus clair des représentations. Il y avait de temps en temps une très belle première, mais le reste du temps, ça n'était pas très digne. Et tout le monde en était arrivé à la conclusion qu'il fallait renverser la table. Pourquoi ? Parce que les conventions collectives, branche par branche, étaient tellement peu harmonisées. Plus exactement, elles l'étaient à propos pour faire en sorte que le salaire, je rentre dans un détail mais qui n'est pas négligeable, le salaire réel de chacun des employés de l'opéra était constitué de 50% du salaire de base et tout le reste c'était les suppléments qui étaient organisés par l'incompatibilité entre la convention des machinistes, celle des électriciens, celle de l'orchestre, celle des chœurs, celle du ballet, etc. Alors si l'on voulait vraiment faire répéter tout ce monde-là ensemble, il fallait payer des sommes fabuleuses. Et de plus, ça ne marchait pas. Et l'orchestre qui était constitué, comme celui de l'Opéra Comique d'ailleurs, parmi les meilleurs musiciens de France, les bons musiciens étaient rarement sur leur chaise. Les mauvais, ou en tout cas les moins bons, étaient là constamment. Tout ça n'était ni fait ni à faire. Je ne vais pas rappeler des souvenirs douloureux, mais enfin, quand on donnait Gisèle, qui est un chef-d'œuvre absolu, même du point de vue musical, le grand solo d'alto, certains soirs, était à faire fuir même les danseurs. Enfin, c'était triste. C'était pas toujours comme ça. Mais enfin, disons que la moyenne était médiocre. Donc, tout le monde s'accordait, y compris le journal Le Monde, qui était déjà la bible de la chose, dénonçait tout cela. En 1965-66, Jean Villard, Maurice Béjart et Boulez avaient été chargés d'un rapport qui n'a débouché sur rien, mais enfin, qui marquait le souhait d'une grande révolution. Bref, il fallait reprendre les choses en main, et donc, il fallait dénoncer toutes ces conventions collectives, fermer la maison, ne plus être totalement à la merci d'une grève, qui était tout de même le moyen de pression le plus usuel dans cette maison. Il est d'ailleurs resté, si j'ai bonne mémoire. Bref, on a donc décidé de relancer la chose et de reprendre les choses en main. Ce qui a été fait grâce à Pompidou, grâce à Chaban-Delmas. Je dis tout ça parce que si l'on n'a pas conscience que toute réforme d'une institution comme celle-là réclame, exige une poussée continue, la confiance des pouvoirs politiques, on pourra toujours commencer, on n'aboutira à rien. Et si cette réforme a pu qu'un cas avoir lieu, c'est grâce à l'idée que se faisaient les hommes politiques de l'époque, quelle que t'aient leur appartenance ou leur idée ou leur philosophie, mais que la culture et que l'opéra faisait partie d'un héritage qu'il fallait préserver. Tout ça faisait partie d'un pacte entre l'institution et la politique.
Oh.
Le duo entre Mathilde et Arnold, alias Andrea Guyot et Nicolas Guéda, dirigé par Alain Lombard, dans Guillaume Tell de Rossini. Nous étions ce matin avec Maud Nourry, Antoine Courtin et Cindy Le Grumelec. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de notre mémoire d'opéra consacré à Hugues Gall. Ce sera sous le titre Les années Liberman. Il est tout juste midi sur France Musique. Voici Nathalie Moller, une heure pour danser.